Si je devais écouter le sol, ça passerait par l'eau en fait. Il y a une petite source à côté de la maison chez ma grand-mère qui coule le long du coteau. Et en fait, il y a un sentier juste à côté qui permet de rejoindre les vignes. Et quand je le prends et que je marche le long de la source, je me rends compte que le clapis de l'eau, le frottement de l'eau sur la pierre me fait entendre en réalité le sol et la pierre. Puisque c'est comme une percussion entre l'eau et le sol. Tu vois, tu pourrais imaginer un batteur qui frappe sur une batterie, bah ça serait à peu près la même chose, quoi.
Font que ce sol nous parle, évidemment, il faut savoir l'écouter. Et donc le sol, il fait un premier bruit, c'est le bruit du contact avec nos pas, avec nos chaussures, avec la matière qui compose nos chaussures. Il fait aussi une petite caisse de résonance avec tout ce qu'il y a en dessous.
C'est ça l'art en fait du tennis, pouvoir jouer sur le gazon, sur le dur, sur le synthétique et puis sur la fameuse terre battue de Roland-Garros. Mais c'est spécial la terre battue, il faut vraiment être vraiment pratiquer beaucoup pour avoir une bonne maîtrise de déplacement sur la terre battue. Vous glissez, vous avez des fois du mal à. Vous n'avez pas autant de grip que sur le dur parce que c'est de la farine. Donc maintenant il y a des chaussures qui sont un petit peu adaptées pour la terre battue. Pour avoir du grip, mais vous n'aurez jamais autant de grip que sur l'asphalte. Ça, c'est ça qui fait justement le charme de la terre battue.
On l'écoute a priori avec nos oreilles, on l'écoute peut-être aussi en le caressant, en lui mettant les mains, en se demandant quelle est l'humeur du sol du moment. Je crois qu'on écoute aussi avec autre chose que ses oreilles, on écoute avec sa perception sensuelle, le toucher, les yeux.
Mais voilà, enfin bon, c'est un souvenir quand j'étais petite et que j'allais dormir chez ma grand-mère. La fenêtre de la chambre donnait sur une rue. On habitait dans un village et c'était la rue principale et il n'y avait pas de déviation et c'était là où passaient les énormes camions. Et ça créait une vibration dans la maison, dans les fenêtres, dans le sol. Je pense qu'il y avait une vraie vibration physique et évidemment sonore. Et il y avait aussi une espèce de... Le son était presque relancé dans l'espace. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui devait se jouer au niveau sonore. Et je pense que la qualité aussi du son était liée évidemment à la chambre. Enfin, l'espace n'était pas très grand, tu vois. Et bien, ce son-là, donc ça, j'ai emmagasiné ce truc-là. Enfin, je n'y ai pas pensé quand je le vivais. Et un truc incroyable, c'est que quand je vais à Beauvais, et c'est une vieille maison, et la configuration de la baraque n'est pas du tout la même, mais c'est quand même... des murs qui ont une qualité particulière, l'espace de la chambre, et je pense la proximité de la rue, et ben en fait, je me suis rendu compte que dans la nuit, pareil, cette sonorité et ces vibrations liées aux, je pense, grosses voitures, enfin, pas, c'est pas des voitures, c'est plutôt des gros machins, genre des camions qui passent, faisaient vibrer de la même façon que quand j'étais petite chez ma grand-mère. Et en fait, du coup, tout à coup, ça m'a quand même submergée de voir réapparaître un espace sonore, enfin, une espèce de résonance sonore de l'espace qui était liée à une vibration aussi du sol et des murs et de la proportion de l'espace. Qui crée un son qui me replongeait dans l'espace de la chambre chez ma grand-mère. C'était déclenché par un son qui venait du sol.
Là, est-ce qu'il y a des vibrations ? Non, pas énormément.
Je pense que c'est une vibration très lente, tellement lente qu'on ne l'entend pas en fait. Ça serait en dessous de l'infrabasse. Tu vois, l'infrabasse, c'est une oscillation du son qui est extrêmement lente. Ce qui fait que on va plutôt la percevoir physiquement dans la poitrine, dans les tempes. Je dirais que le sol, en fait, on arrive à un tel degré. Enfin, c'est une pure imagination, c'est une pure projection, mais on arrive à un tel degré de lenteur du son qu'on ne l'entend pas, en fait. Juste, c'est quelque chose qui est là, mais qu'on doit ressentir quelque part, mais qu'on ne peut pas entendre.
Mais ça sent les vibrations. Votre corps, il sent quand vous marchez quelque part et tout. Mais bon, oui, même quand une voiture passe à côté de vous, vous sentez.
La notion de transect nous permet de nommer cette part de la marche qui reste attentive à ce sur quoi elle s'appuie et non simplement à la destination ou à l'environnement dans lequel elle avance, dans lesquels elle avance même. Pour Marie-Claire Robic, le terme transect désigne pour les géographes un dispositif d'observation de terrain ou la représentation d'un espace le long d'un tracé linéaire et selon la dimension verticale, destiné à mettre en évidence une superposition, une succession spatiale ou des relations entre phénomènes. Mais j'ai toujours l'impression que transect, en fait, quand on marche vers quelque chose, et le transect, c'est quand on marche sur quelque chose. C'est un peu la résonance de la profondeur sur laquelle on marche. On marche toujours sur une histoire géologique, mais quand on marche, généralement, on va faire des courses, on va vers du café, par exemple. Mais qu'on marche sur des terres qui ont peut-être du café en dessous. On creuse pas, on va...
Sous le sol, il y a de la terre.
Il y a Dieu seul qui le sait, et ceux qui travaillent.
Si l'herbe pousse, il y a forcément des matières organiques.
C'est un bon sol, hein. Il est propre.
Tout, c'est une plaque du PTT, et des PTT de la poste, des télécoms et des télécommunications. Et en bas, il y a passé des fils. Il y a des fils... électronique qui fait passer de la Wi-Fi en plus simple, hein, de la Wi-Fi, des téléphones, des audiovisuels des fois aussi. Et il y a des ouvriers qui rentrent, qui travaillent dedans. Quand ils rentrent, ils font un bruit qui est pas un bruit comme naturel, comme on est là, qui est un ton de voiture, des gens, des animaux. Là-bas, c'est un bruit compact en fait. C'est tous les bruits rassemblés et ça te rentre d'un coup. Tu ne distingues pas. Et normalement, selon moi, à un certain moment, si tu fais beaucoup de taf, tu travailles beaucoup dans ça, c'est ça aussi qui provoque des handicaps.
Les vibrations, en fait.
Ça commence pas à partir d'un mètre.
Si c'est vrai, il y a des morts vivants en dessous.
Il peut y avoir du diamant, il peut y avoir de l'eau, il peut y avoir des sédiments.
Il y a des catacombes,
il y a des métros.
Il y a des volcans. Il y a de l'eau.
terre.
Il y a des mines de charbon.
Il y a des cailloux.
Bah, il y a
des ossements.
Il y a même de l'oiseau.
En dessous de la terre, il y a des océans.
Il y a des insectes qui mangent les restes d'eau.
Ils sont grands.
Il y a des mines de charbon. Non, il y a des gens qui travaillent en bas.
Il y a des boules. Mais non, ça date qu'on n'a pas travaillé.
En fait, on ne sait pas.
Quand on est dans les catacombes, on est attentif au bruit d'un pas étranger. Parce qu'on sait qu'on va croiser quelqu'un, on est attentif au bruit de l'eau quand on commence à marcher un peu trop longtemps dans l'eau, on commence à s'inquiéter parce que ça peut monter. Sous terre, ça a quelque chose de plus confiné, on a beaucoup moins de bruit, c'est beaucoup plus mat comme sonorité. Parfois on marche courbé pendant quelques centaines de mètres et on se demande si on va se relever, là où il faut se glisser dans une faille du terrain et on frissonne un peu. Tout ce bruit qu'on entend autour de nous, qui est fait d'accidents, de rencontres, d'univers sonores qui ne sont pas gérés, voilà, tout ça est enlevé. Il ne reste plus que les bruits qui sont liés vraiment quand on est dans une cave. C'est peut-être une tuyauterie, c'est peut-être une petite porte qui grince un peu plus loin parce qu'il y a une autre cave. Et là, dans les catacombes, c'est vraiment les bruits de la ville parfois quand on remonte un peu, quand on est sous une cour par exemple, où tout à coup on isole. Quelqu'un qui va mettre un truc dans sa poubelle, ou quelqu'un qui pousse une porte, ou quelqu'un qui ferme une grille, parce que c'est souvent des grilles d'accès et on n'est pas très loin des caves non plus. Donc voilà, tout est atténué, ce qui fait qu'on se raconte beaucoup plus facilement une histoire, parce qu'il y a peu de bruit. Être sous la terre, pour moi, c'est décider d'échapper à l'extérieur. Notre vie est à l'extérieur, la plupart du temps, donc nos références, elles sont à l'extérieur, on se fait des films, mais en tout cas, je pense que quand c'est un choix d'être sous la terre, on vit le moment présent qui est rare quand c'est une balade, quand on est dans sa cave pour aller chercher une bouteille de vin, c'est assez éphémère, mais néanmoins c'est un moment d'isolement et je crois que ça fait partie du trip d'aller dans la cave pour chercher une bouteille. Donc voilà, on se raconte des histoires en oubliant, moi, mon point de vue c'est d'oublier l'extérieur dans ce cas-là, même si on a une référence permanente.
En fait, il y a un paysage imaginé.
Des dinosaures, des rats,
des kebabs, des souris. C'est tout marron, et tout noir, et tout jaune. Non, non.
C'est humide.
Il y a des tunnels souterrains.
C'est marron.
Marron noir.
Marron noir.
Et gris.
Non.
En fait, ça se dit, ça, je sais pas comment je pourrais dire, ça se modifie, mais c'est pas comme t'es comme ça. Il y a la voiture qui passe, t'entends, c'est une voiture. Il y a quelqu'un qui parle ou un chien qui aboie. Mais là, c'est en fait, c'est les tout rassemblés en un seul bruit, quoi. On porte des casques anti-bruit qu'on porte aussi dans le bâtiment. T'es seul avec ton toki, parce que tu peux pas travailler seul. Là-dedans, mais des fois, il y a des gens aussi qu'on leur fait travailler seul. Et normalement, vous devez être aidé avec des talkies, parce que vous ne pouvez pas parler comme ça et que vous attendiez. C'est impossible.
C'est aussi assourdissant qu'on ne peut pas se parler, en fait.
Vous ne pouvez pas vous parler et vous entendre. Jamais. Il faut vous parler au talkie. Soit, si vous pour vous parler, il faut que vous soyez comme ça, côte à côte. Mais tu ne peux pas parler à quelqu'un qui est à 2 mètres de toi, non. Tu dois crier, tu peux pas parler normalement. Bah, y a des gens aussi qui ont travaillé comme ça, ils sont à 3 mètres, ils se parlent, mais à force de crier, tu vas commencer à crier même dehors. Après, c'est un handicap, tu seras plus une personne normale. Il y a aussi de la chaleur, beaucoup de chaleur. Bah, ça, c'est évident, c'est sans les confiner. Beaucoup de chaleur.
Il y a de la terre. C'est sûr et certain. Il y a de la terre. La terre, elle est où elle est jaune, ou elle est un peu en couleur, quoi. Il doit avoir à peu près dans les 50 cm.
L'autre jour, j'étais chez une amie et elle me dit « Il faut absolument que tu lises ce livre de Gilles Clément. » Et elle l'ouvre et elle commence à me citer un passage où en fait, il explique que dans l'agriculture... on a tué la biodiversité, que dans les parcs régionaux, on va contrôler la colonisation de certaines espèces végétales. Ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, il reste que le trottoir comme terrain possible d'une colonisation anarchique des plantes. Et de là, on commence à parler du bitume. Et en fait, on en vient à avoir une espèce de projection très angoissante de ce sol qui aplatit tout et qui empêche la terre de respirer. Parce qu'en fait, quand on regarde la coulée du bitume, c'est quelque chose, c'est une sorte de mélasse noire qui est déversée comme ça, comme un coulis de magma. Et en fait, c'est très peu poreux, comme la pierre, comme le pavé, comme les terrains stabilisés. Dans le bitume, il y a quelque chose d'une sorte d'enveloppe ou de film qui est déposé et qui nous déconnecte en fait quelque part du sous-sol.